C'est un vrai plaisir pour nous, vraiment, d'accueillir entre cette vénérable institution Edmundo Gomez Mango, psychanalyste parisien, et qui est toujours un peu partagé entre deux cultures, puisqu'il est d'origine uruguayenne, mais aussi entre sa passion pour la littérature, comme on verra, et sa passion pour la psychanalyse. Cette réunion est à l'occasion de la sortie du livre Un muet dans la langue, dont on va essayer, moi et mes collègues, de vous parler un petit peu, en même temps sur un plan général, et puis peut-être en abordant des points particuliers. Et bien sûr, Edmundo pourra nous interrompre quand il voudra, et on a aussi quelques questions pour lui, bien sûr. Alors tout d'abord, peut-être deux mots de présentation de l'ouvrage qui fait quelque chose, à mon avis, d'assez nouveau dans le domaine, qui est de rapprocher la parole analytique avec la parole poétique. Alors on sait que Freud s'était quand même intéressé aux poètes, en particulier à Goethe, à Shakespeare, qu'on peut aussi considérer comme un poète. Et il y a quelques textes de Freud, en particulier sur le rêve éveillé, la création littéraire, ou le texte où il rend compte de sa rencontre avec Rilke, qui ont un rapport avec la poésie. Mais c'est vrai qu'en général, on fait plutôt un lien entre psychanalyse et littérature, au sens plus général du terme. Parce qu'effectivement, c'est un lien plus évident, et on a eu souvent l'occasion d'en parler, ici même d'ailleurs avec J.B. Pontalis plusieurs fois. Parce que Freud était dans une atmosphère aussi peut-être surtout littéraire à Vienne, avec Zweig et Schnitzler, peut-être aussi, et puis il y avait aussi à Budapest, pas très loin, Ferenczi, avec tout un tas d'écrivains aussi qui étaient dans le domaine de la fiction, mais pas directement dans le domaine de la poésie. Donc il y a quelque chose de vraiment original dans cette démarche de rapprocher les deux discours. Qu'est-ce qui peut en donner une idée? C'est peut-être parce que je dirais qu'avec la psychanalyse comme avec la poésie, on privilégie peut-être plutôt le dire sur le dit, le moment de l'énonciation. Et que c'est peut-être à ce titre-là quand même qu'il y a quelque chose qui vient se rapprocher. Mais il y a plein d'autres manières d'aborder les choses. Et donc Edmundo Gomez Mango, moi c'est toujours votre nom qui m'a fait un peu rêver, parce que je l'ai toujours un peu pris comme le début d'un haïku, où j'entendais le monde, j'entendais les mangues, j'entendais toute l'Amérique du Sud. Et donc je pense que vous étiez vraiment bien placé pour être le messager des poètes auprès des psychanalystes. Et donc vous le faites d'une façon que je trouve très intéressante, à la fois dans deux sens, le mouvement de la poésie un peu vers la psychanalyse, où on est très, très étonné en particulier de voir comment Novalis avait des intuitions qui étaient vraiment préanalytiques très très tôt. Et puis dans un autre sens, qui est le mouvement aussi de l'écoute analytique et du discours dans l'analyse, le discours ça va pas, mais de la parole, disons, dans l'analyse, où quelquefois on rejoint certainement une dimension poétique. Donc ma première question, elle serait plutôt de ce côté-là, du côté de ce moment où la parole du patient prend une forme poétique, ou dans l'écoute qu'on peut en avoir. Vous dites aussi, en parlant des poètes, que quelquefois les choses sont pas très, pas forcément adressées, ou qu'on n'en saisit pas bien à qui c'est adressé, ou c'est peut-être adressé à tout le monde. Et c'est sur cette question de l'adresse, quand le discours à l'intérieur de la séance devient quelque chose qui nous apparaît comme poétique, est-ce qu'on n'est pas dans un mouvement où l'adresse peut pas tout à fait dire son nom, parce qu'on serait du côté d'une régression qui aurait à voir avec quelque chose du maternel? Je sais que vous avez aussi écrit un livre sur la place des mères, et donc c'est toujours un peu difficile de parler de transfert maternel, parce que c'est presque quelque chose qu'on peut pas énoncer tel quel. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans ce moment poétique de la naissance du langage, d'une certaine façon, où on retrouve quelque chose de la naissance du langage, quelque chose qui aurait à voir avec l'espace maternel, dirons-nous? Voilà, ça serait un peu un premier élément de question, mais Je ne sais pas si vous voulez intervenir tout de suite ou comment vous voulez faire.
Ça dépend. Si vous voulez, on peut...
Oui, ça peut être comme ça.
Une forme plutôt dialoguée. Alors, je reprends... Je vous réponds un peu, partiellement.
Oui.
D'accord. Alors, oui, c'est vrai que je me suis proposé peut-être de façon un petit peu ambitieuse de comparer ce que j'appelle comme deux aventures de la parole humaine tout à fait spécifiques, chacune d'entre elles, c'est-à-dire la parole qui parle dans le poème et la parole qui parle dans la séance de l'analyse, de la psychanalyse, n'est-ce pas ? Alors, évidemment, quand on essaye de rapprocher ces deux... Pourquoi aventure ? Parce que c'est la parole qui est à la découverte de quelque chose. C'est la parole qui n'a pas un trajet défini à l'avance, ni dans la séance de psychanalyse, ni dans le poème. C'est une parole donc qui est dans ce sens et vers ce qui vient, vers ce qui advient, dans la langue elle-même, n'est-ce pas ? Et évidemment, les différences sont criantes, sont frappantes. C'est la chose qu'on peut dire, mais qu'est-ce qu'il y a à voir entre... comment on peut comparer cette splendeur de la parole d'un poème, d'un sonnet bien fait, ou de la grande poésie, avec la parole qu'on écoute dans les sciences analytiques, qui est souvent une parole qui se répète, une parole qui a du mal à se dire, une parole qui tâtonne, une parole qui est trop, très proche parfois d'un parler ordinaire. Alors, quand même, il me semble qu'il y a des moments dans l'expérience de la parole dans la cure où il y a quelque chose qui résonne, que j'appelle des instants, des moments d'émotion poétique. Alors, déjà, c'est très difficile d'essayer de se mettre d'accord ou de définir qu'est-ce que c'est que la parole poétique en général. Dans la préface, dans l'avant-propos, j'essaye de limiter un petit peu, mais c'est évidemment très difficile parce que c'est comme avec certains mots, n'est-ce pas, que nous connaissons bien en psychanalyse aussi. C'est-à-dire, nous sommes le psychanalyste et le poète aussi, on sent en commun que d'une part, ils soupçonnent les mots, mais d'autre part, ils ont une confiance dans les mots très importante. Par exemple, évidemment, le mot « amour » en psychanalyse, ça veut dire toujours la même chose, c'est toujours l'amour. Et sur ça, Freud insiste énormément. On ne peut pas faire de différence radicale entre l'amour dans toutes ses formes, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose de bon. Et le mot, donc, a là, dans ce registre, la capacité de signaler ou de se référer à quelque chose d'essentiel. Et du côté de la parole poétique, c'est la même chose. La parole poétique, qu'est-ce que c'est ? Ça change tout le temps, depuis le commencement jusqu'à des temps, n'est-ce pas ? La parole épique, celle de du chant, des gestes, de la création des légendes populaires, etc., jusqu'à maintenant. Quoi de plus varié ? Quoi de plus... Comment comparer ? Comment trouver quelque chose, une sorte de dénominateur commun ? Et pourtant, quand on dit parole poétique, on sait ce que l'on dit. Et quand on est ému par quelque chose de l'expérience de la poésie, on sait que on s'approche de quelque chose qui est certaine, quoi, qu'on a la conviction que c'est ça, et pas une autre chose. Alors, dans la cure, je ne sais pas si c'est du côté du maternel la question de l'émotion poétique. Il me semble que, c'est, évidemment, c'est une émotion rare. Ce sont des moments exceptionnels, dirais-je, n'est-ce pas, dans une cure. Ce sont des moments Je crois que Lacan parlait de moments féconds en faisant peut-être une sorte d'analogie avec les moments féconds du délire, n'est-ce pas, de l'expérience délirante. Mais ce sont des moments où on ressent que la parole du patient s'est approchée à quelque chose de vrai, qui a tâtonné tout près de quelque chose qui est là, qui peut-être ne peut pas être dite tout à fait, qui est peut-être une chose muette, mais que la parole en séance, à ce moment-là, s'est rapprochée de ça, de quelque chose de vrai, de quelque chose justement peut-être même qui est au-delà de la langue elle-même, mais que c'est seulement à travers de la parole et de la langue qu'on peut essayer de l'atteindre. Et c'est dans cet effort d'aller au-delà de la propre parole que peut-être quand le patient peut se rapprocher et l'analyste peut entendre quelque chose d'une chose muette qui est là et qui peut-être il nous semble parfois qu'il nous parle tout bas et qui est une région psychique du patient ou de l'expérience elle-même de la cure. Évidemment, le transfert est toujours là comme énergie qui est capable de dynamiser, de donner une dynamique particulière au discours du patient et à l'écoute de l'analyste. Et que c'est donc là que je crois qu'on peut se dire qu'il y a une sorte d'analogie entre ces moments-là, rares mais précieux, dans une cure d'analyse, d'émotions poétiques qui sont analogues à ce qu'on peut écouter dans le poème. Alors, oui, les intuitions de Noali sont merveilleuses. Peut-être après, on pourra revenir sur ça. Mais bon, je laisse que vous continuiez.
Non, ça, on pourra... non, peut-être juste un petit quelque chose pour débattre. Comme j'étais dans la lecture de ce livre et puis que le film de Jane Campion est sorti juste au même moment, j'y suis allé et effectivement, bon, d'habitude, les poètes sont pas tellement dans le flot de l'actualité. On pourrait même penser que c'est une espèce en voie de disparition. Mais là, actuellement, il se trouve qu'on en parle. Et donc, dans ce film, quand Keats donne des leçons de poésie à sa bien-aimée, il dit que la poésie, pour lui, est une expérience des sens. Au sens de la sensualité ou de la sensorialité. Et au fond, c'est peut-être un peu ça qui m'avait fait poser la question du côté peut-être du maternel, sans vouloir vraiment forcément insister sur cette question-là. Mais parce que vous le dites quand même aussi que la question du sens sensoriel ou la question alors Freud disait le langage des perceptions est pas toujours facile à mettre en mots. Et c'est peut-être le langage va souvent avec l'idée d'une logique ou l'idée d'une raison. Et le sensoriel ou le langage direct lié au sensoriel peut effectivement être un peu le fait des poètes quelquefois. Oui. Et c'est un peu ce qui me faisait dire ou me faisait poser la question dans ce sens-là, par rapport à la question du maternel.
Oui, ce que vous dites m'évoque quelque chose de... où il y a aussi, je crois, la possibilité d'un rapprochement entre la parole dans le poème et la parole en analyse. Je me souviens d'un mot de Paul Valéry qui disait « Pour le poète, il ne s'agit pas de dire « il pleut », il s'agit de faire de la pluie. » Et dans l'analyse, c'est un peu la même chose. Il ne s'agit pas de dire « Ah, papa et maman et le complexe d'Oedipe ou la haine et l'amour, etc. » Il faut que ça se passe, que ça prenne, que dans la séance, c'est ce que j'appelle aussi ces vivances, ces expériences vécues, soient là, en soutenant la langue, soutenant le langage. C'est pour ça aussi que ça, c'est difficile aussi. C'est justement dans ces moments d'émotions poétiques où la vivance, l'expérience vécue se rapproche de la langue. Et donc, il y a pas seulement le mot, mais ce qu'il y a au-delà du mot, que c'est que quelque chose de l'éprouvé, quelque chose de l'expérience intime que la langue désigne et que l'analyste, c'est-à-dire il y a dans l'agir transférentiel, il y a quelque chose de ça, d'une expérience partagée entre l'analyste et l'analysant. Et comme dans la lecture d'un poème, il y a ces moments où, véritablement, il pleut dans le poème.
Peut-être juste alors un dernier mot avant de passer la parole à mes petits camarades. C'est que, toujours dans ces leçons de Keats, à sa bien-aimée, dans le film Bright Star, il lui dit que le poète a toujours un problème d'identification, que son identité est toujours un peu vacillante, parce qu'il a tendance aussi à s'identifier aux objets, à tout ce qu'il vit. Et c'est peut-être aussi dans ce mouvement-là d'une labilité des identifications, d'une fragilité des identifications, qu'on pouvait retrouver quelque chose qui aurait à voir avec ce qui peut se passer dans une cure et dans la psychanalyse, où à un moment donné, les identifications comme ça peuvent être amenées à vaciller et à apparaître dans le même temps.
Oui. Oui, il y a une expression dans une lettre de Keats qui est devenue célèbre, que j'avais citée dans La Place des Mères il y a déjà longtemps, mais qui vient d'être recommentée par un analyste américain qui a publié récemment Michel Grimaski. Comment s'appelle, tu te souviens?
Philippe Adams.
Hein? Voilà. Et qui, dans l'exergue du livre, il y a une citation de Keats, d'une lettre où il parle justement d'une des possibilités de se rapprocher de l'expérience poétique du poète lui-même. C'est ce qu'il appelle la capacité négative, ou l'identité négative. La capacité négative qui est justement c'est la capacité du poète d'affirmer son identité, même quand il vacille, même quand il tâtonne, même quand il n'est pas sûr de rien, c'est-à-dire d'affirmer quelque chose d'une identification dans la pénombre, dans la recherche, dans le mouvement même des mots, n'est-ce pas ? Il appelle ça la capacité négative, c'est très beau. Et je pense que l'analyste, d'une certaine façon, doit admettre, doit à certains moments, renoncer à des identifications faciles, disons, qui peuvent venir le solliciter et essayer d'avoir cette espèce de capacité négative pour pouvoir absorber tout ce qui vient du patient et pouvoir l'élaborer avec lui, dans l'entendre de la parole de l'analysant, n'est-ce pas ? Et que justement, donc, il y a là une sorte de trouble des identités qui me semble, oui, qu'on pourrait dire que c'est aussi quelque chose qui se passe du côté de la poésie et du côté de, parfois, de la psychanalyse.
Peut-être Jean-Claude va nous parler.
Oui, aussi. Parce que en vous écoutant, je vous remercie, Edmundo Gomez-Mango, d'être venu. Jean-Philippe a tout de suite associé sur la question du voyage. Effectivement, moi j'avais lu votre livre comme on voyage, d'une certaine façon. Avec peu de repères au départ, même s'il y a effectivement la pensée de Freud. Mais je voulais juste dire par rapport à ce qui se disait là sur la question du sensible, du poème, c'est que la poésie c'est aussi un art. Je veux dire, il y a une dimension artistique aussi dans la création poétique, et je crois que c'est un art du temps et un art de la mémoire, et en particulier du temps pour essayer d'organiser à la fois la temporalité et la musicalité de ce qui se dit et de ce qui s'écrit, et en même temps de la mémoire, mais de la mémoire sensible essentiellement, effectivement. Et bon, il y a un poète que j'aime beaucoup, dont je vous avais parlé un petit peu avec vous, qui est Antonio Gamoneda, qui a parlé de sa poésie, qui est un poète espagnol, contemporain, et qui lui dit qu'en plus c'est un art de la perte. Je veux dire, c'est ça a à voir avec la perte et avec le, tout ce travail.
Vous parlez de Gamoneda ?
Oui, Gamoneda. Oui, Antonio voilà. Gamoneda. Vous avez un petit peu parlé avec vous déjà.
Oui, oui, j'en souviens voilà. Très bien.
Et c'est aussi un art, effectivement, qui a à voir avec la perte. D'ailleurs, c'est quelqu'un, bon, si j'ai 5 minutes, je peux en dire un petit mot, mais qui a perdu son père très tôt. Et il a découvert, lorsqu'il a été adulte, alors qu'il a appris à lire, avec sa mère, je crois qu'il n'a pas été scolarisé, il a appris très tard que le livre sur lequel il avait appris à lire était des vers écrits par son père, qui avait le même nom et le même prénom que lui. Donc il y a toute une histoire comme ça, effectivement, je trouve qu'il était très en lien avec ce que vous développez dans votre livre et tout le travail, effectivement, de l'analyse. Je ne sais pas si vous souhaitiez dire quelque chose à ce sujet, la question du rapport à la perte, quoi, quand même, aussi dans la poésie.
Oui. Oui, il y a la question du rapport à la perte, et vous avez signalé aussi la question du rapport à la trace.
Et au temps, oui, voilà. Au temps et à la mémoire.
Au temps et à la mémoire, oui. Je connais Antonio Gamoneda, mais je ne connais pas son œuvre de façon approfondie, mais j'ai lu quelques... Mais c'est vrai que l'expérience vécue de la poésie évoque, oui, comme vous dites, quelque chose de l'ordre de la perte. Et premièrement, je crois, la question de le fantasme, l'angoisse de la perte de la parole elle-même, n'est-ce pas ? Qui est une des angoisses profondes, c'est une sorte de menace, d'une sorte d'aphasie secrète totale avec laquelle le poète doit se confronter parfois, souvent même. Et je pense que c'est un fantasme aussi qu'on peut entendre dans la situation analytique, n'est-ce pas, de qui parfois s'exprime par une sorte de désinvestissement du langage, de à quoi ça sert, encore dire, encore parler, ça ne sert à rien, etc. C'est-à-dire aussi là comme une sorte de crainte, de fantasme, de ce qu'on appelait parfois la aphanisis, c'est-à-dire la débilitation, la perte progressive du désir de la parole elle-même, n'est-ce pas ? Donc qui est une sorte, évidemment, bon, d'angoisse de castration ou d'angoisse de mort du côté de la psychanalyse, mais que je pense qu'il y a aussi ça. Oui, dans certaines expériences de la poésie qui sont très proches, comme par exemple Antonio Gamoneda, d'une sorte d'expérience aussi de la pauvreté, mais de la pauvreté dans le sens de, non pas de la, même si parfois ça coïncide, n'est-ce pas, la misère humaine par exemple, mais aussi de la pauvreté de la langue dans le sens de son dépouillement le plus complet, quoi. De sa nudité totale, quoi, de la parole nue, de la parole qui est à la fois parfois d'une extraordinaire puissance communicative, mais en même temps d'une extrême fragilité. Je trouvais ça aussi dans la parole de l'autre amant, justement, qui est un chant sonore d'une puissance extraordinaire, mais qui en même temps on ressent toujours qu'il y a une sorte de fragilité parce que c'est un chant qui est toujours au bord de sa cassure, au bord de sa presque de son écroulement, n'est-ce pas ? Tant l'expérience de la langue elle est poussée d'une façon tellement intense jusqu'à l'extrême limite que c'est là où elle peut se perdre aussi. C'est là où elle peut se transformer, disons, en son contraire et devenir quelque chose d'une langue morte, d'une langue déchirée, ou d'une langue qui s'écroule. Je ne sais pas si vous avez...
Oui. Moi, je partage tout à fait votre avis, mais ça me faisait penser à d'autres, une autre partie de votre travail. Lorsque vous parlez, par exemple, de la perte de l'être aimé, quoi. Hein, dans toute cette, de l'être aimé.
Oui.
Et tout le travail... moi, je trouve cela, c'est très proche, effectivement, je trouve, du travail qu'on peut rencontrer dans certaines analyses, à certains moments, en tout cas, d'analyse, lorsqu'ils sont assez... fécond et lorsqu'il ne reste pas complètement muet quand même, parce que il faut partir d'un moment comme ça, et avec tout ce que vous disiez autour du cri, de la lamentation, qui comme image de la naissance de la musique. Moi, je trouvais que c'était assez beau ce que vous disiez de ça à propos de comment s'appelle-t-il, Alejo Carpentier. Carpentier. C'était une image assez belle. Et tout le travail qui se fait au moment, effectivement, de la perte d'un être aimé par certains poètes que vous citez, comme Juan Gelman, que vous citez beaucoup, et où il y a des passages magnifiques sur la façon dont il fait travailler la langue. Pour faire ressortir justement ce dont il était question en début d'échange, sur toute cette question de la douleur, de la souffrance, et qui parfois laisse muette, mais qui parfois peut permettre peut-être d'être à la base d'un travail. J'associe un petit peu, parce que je suis un peu plongé effectivement actuellement sur ce poète, mais Gamonella, il disait par exemple qu'il avait découvert la lecture avec Dostoïevski, et qu'il avait découvert qu'il pouvait prendre du plaisir à partir d'un texte qui ne parlait que de souffrance, par exemple. Il y a des éléments comme ça qui, je trouve, moi, dans votre travail, qui fait beaucoup penser, qui fait beaucoup, qui renvoie beaucoup à des images, à des perceptions. Je vous le dites pas comme ça, mais vous parlez par exemple de la métaphore, de la place de la métaphore, de ce que vous appelez de la place de la métaphore comme base de la conceptualisation. C'est quelque chose, moi, si vous pouviez un petit peu préciser ça et puis développer un petit peu ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé tout à fait... Parce que, bon, classiquement, on apprend que l'affect, par exemple, est perçu avant d'être représenté. Mais il me semble que vous le dites d'une autre façon et de façon beaucoup plus riche, quoi.
Oui. Oui, c'est vrai que mon livre s'appelle « Un muet dans la langue », et donc vous faites allusion justement à quelque chose de l'ordre de l'expérience du sans-mot, du sans-parole, n'est-ce pas, de quelque chose de l'ordre du mutisme. Et alors là, bon, je travaille cela dans ce livre à partir de deux entrées, disons. L'une, bon, qui je signale dans l'avant-propos, qui est un peu une pensée poétique d'un poète contemporain français qui est mort il y a peu d'années, qui s'appelle André Duboucher, qui, dans un livre publié, je crois, dans l'année 2000, un livre qui a un très beau titre, qui s'appelle justement L'emportement du muet, disait quelque chose comme « Si je suis quelqu'un dans la langue, je suis dans la langue le muet. » Alors ça m'avait produit un effet sidérant, parce que je me suis dit que j'étais vraiment saisi par une sorte de pensée poétique, n'est-ce pas ? Alors voilà la capacité de la pensée métaphorique et de la pensée poétique. C'est Yves Bonnefoy, notre poète, qui a beaucoup insisté sur cela, n'est-ce pas, sur la parole poétique comme une forme de la pensée, qui n'est pas la pensée rationnelle, qui n'est pas la pensée philosophique, qui n'est pas la pensée strictement scientifique, mais qui est une forme de pensée, et qui, souvent, c'est à travers, justement, de la métaphore que peut être saisie une sorte d'intuition, une sorte de propositions, comme par exemple celle-là, « Je suis dans la langue le muet ». Et alors, évidemment, on peut se représenter, c'est ça ce que j'ai imaginé, Et le muet, c'était un peu... Ce qui parle dans le poème, ce n'est pas le poète lui-même, mais c'est la langue, c'est la parole, c'est le langage. Et que le poète, c'est celui qui est, disons, en combat, en lutte, en guerre contre les mots, contre les paroles, ou au service d'eux, ou contre eux. Mais enfin, qu'il y a comme ça, comme une sorte de bataille intérieure que le poète doit livrer, n'est-ce pas, un combat. Là aussi, c'est très clair, par exemple, chez l'Otriamon. Et pour que ça puisse arriver à dire quelque chose, que le poète raisonne contre les mots ou se blesse contre le langage, et c'est lui donc ce poète muet qui fait que le langage puisse parler et que le langage puisse dire et que puisse parvenir à des choses. Alors après, il y a une autre entrée sur ça, qui est la question de l'infance, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, et là je dois beaucoup à J.B. Pontalis, parce que c'est lui qui a enrichi cette notion de l'infance dans la conception psychanalytique. Je me souviens que, par exemple, il s'était rebellé contre le fait que quand le mot « infance » apparaissait dans les travaux de Freud ou de Melanie Klein, parfois, on traduisait par « bébé ». Et alors, il disait « mais non, c'est pas le bébé, l'infance, c'est une autre chose. Bah, l'infance, c'est pas un état chronologique, c'est pas un état du développement. C'est ça aussi, mais c'est pas seulement ça. Hein. » Donc, il a introduit une notion beaucoup plus riche de l'infance que j'ai essayé de reprendre moi-même, et que l'infance, c'est comme une expérience que nous avons connue tous, n'est-ce pas, quand nous étions justement pas encore déjà dans la langue, déjà entouré par le langage, déjà dans le médium, disons, de la langue, mais que nous n'avions pas encore accès à l'utilisation de la langue. C'est-à-dire que nous avons tous traversé par cette période, qui est donc celle de l'infance, où le tout petit enfant écoute parler, essaye de... Tout le monde parle autour de lui, tout le monde essaye de le faire parler, justement. Et lui, il reste muet, mais en même temps, dans une activité sensorielle d'une extraordinaire intensité. Les perceptions sont très intenses. On peut imaginer une vie de sensations, une vie sensuelle, une vie de perception qui est extraordinairement intense, parce qu'il n'a que ça pour pouvoir même s'exprimer aussi, n'est-ce pas, à travers la motricité, ou à travers des cris, ou à travers le babil, ou à travers tout ce qui précède un peu l'étape proprement langagière. Et c'est donc cet état-là de l'infance qui reste comme une sorte de résidu de l'expérience dans le sujet qui évolue après, même quand il accède au langage. Et c'est aussi, je crois que c'est Jean-Marie Le Clézio qui a très bien décrit ça, que c'est ça représente, dit-il, pour l'être humain, l'entrée dans le langage, c'est surtout un très grand abandon. C'est laisser de côté une énorme possibilité de vie sensorielle, perceptive, émotionnelle, qui est comme retranchée, qui est comme abandonnée quand on entre dans la vie du langage. Donc c'est comme un rétrécissement, en même temps que ça ouvre évidemment à énorme possibilité de communication, de langage, etc. Mais ça, c'est aussi comme une sorte d'appauvrissement, et qu'il y aurait comme une sorte de deuil, une sorte même, on pourrait dire, de castration première dans cette perte de l'infance, d'un monde tellement riche en sensations. Bon, déjà, du point de vue, là, il y a des études qui ont été faites sur la possibilité de sonore, par exemple, d'un bébé, le babil, le gazouillage, qui est extraordinaire. Quand il entre à parler une langue, il abandonne cette possibilité infinie de parler toutes les langues qui étaient là, chez lui. Comme, c'est pour ça que j'ai intitulé un des livres, dans un des chapitres, l'infance polyglotte, parce qu'il y a comme une sorte de polyglottisme potentiel dans tout être humain. Ça va dépendre de l'environnement langagier pour qu'il puisse aller dans une langue. Mais il a en lui cette... Bon. Donc, c'est l'infance, c'est ça. C'est pas seulement une étape chronologique, on peut dire, ça va d'ici jusque-là, mais c'est comme quelque chose qui est resté dans le sujet parlant, parce que c'est là aussi où il y a quelque chose d'essentiel, c'est l'articulation du psychique, du langage, n'est-ce pas, qui se fait justement à travers de cette perte primaire, d'une perte primaire qui serait du côté donc de la sensation, de l'émotion, comme limitation de cette expérience.
Je crois qu'Anne, justement, voulait parler un peu de cet aspect des choses, mais elle va reprendre les choses.
Et puis je vais parler aussi de la poésie et la psychanalyse, telle que vous l'abordez. Voilà. Au niveau de la poésie et la psychanalyse, dans les deux cas, cette activité de la langue cherche à dire ce qui est ressenti, à donner forme à des images. On est obligé de reprendre ce que vous avez. Voilà. À des images ou à des affects, et à raconter des souvenirs, des rêves ou des fantasmes. L'impulsion première, dans les deux cas, ce n'est pas de communiquer, au sens habituel du terme, au sens de transmettre ou d'être en relation, mais de sonder l'obscur, le muet, le sans-parole.
Oui.
Dans les deux cas, l'intérêt, ce n'est pas dans les concepts. Bien sûr, si l'on se sert des mots, hein, mais l'intérêt, c'est le vif de l'expérience. Le poète et l'analyste, en fait, se servent et servent le langage, vont servir le langage. Ils tentent tous deux de rejoindre la chose avec la parole, de s'approcher de ce qu'ils désignent sans pouvoir l'atteindre, même s'ils n'atteignent pas. Il y a quelque chose qui échappe sans cesse dans les deux cas. Il y a quelque chose d'un combat. C'est comme un combat bien éprouvant, comme celui de l'étudiant qui n'arrive pas à se mettre au travail et tourne autour de son travail, entraîné par des prétextes divers. Les mots sont des démons, dites-vous. Dans le poème, les mots sont emportés par leur chant. C'est-à-dire qu'il y a une musique dans la poésie, comme dans certains poèmes, par exemple celui que vous citez, « Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie », on retrouve un chant dans le poème, ce qui fait que il est souvent dit à voix haute. Vous m'avez appris que Aragon et Breton étaient médecins. Et
étudiant en médecine.
Étudiant. Moins, oui. et parler et disait des poèmes à voix haute, se répondait des poèmes, justement les poèmes de Lautréamont, les soirs de garde.
Oui. On trouvait des malades psychiatriques qui déliraient.
Oui, avec les malades à côté.
C'était l'atmosphère la plus propice pour le chant de Baldoror.
Oui. Ça fait penser quand même aussi à cette... il n'y a pas de chant, mais parfois il y a un petit peu de musique, hein, comme dans le rap actuellement, et surtout le slam, qui est plus récent, qui est vraiment la redécouverte de la poésie, de la rue, comme les chansons de tango, sont la langue de la rue, qui sont aussi de la poésie. Voilà, on est aussi dans l'opéra, c'est le récitatif de ce côté-là. Bon, effectivement, on peut imaginer que l'homme primitif a chanté avant de parler. Et le chant est plus proche du cri. que du langage. Cette langue première n'a pas seulement traduit les sentiments et les émotions, mais elle les a aussi formés, construits, elle les a incarnés en leur en donnant un mot à ce qui se passait. Et vous aimez à penser que la poésie précède la prose, comme chez l'enfant le babil ou le chantonnement précède l'élocution parlée. La lecture du poème donne de la joie, comme celle d'un retour d'exil, un retour à la langue des commencements. Mais le poète cherche à produire un texte et l'analyste non. La parole en analyse est éphémère. En fait, c'est une parole qui ne sait pas où elle va. C'est une parole qui n'a pas l'intention de communiquer au sens habituel du terme, mais qui a l'intention, qui cherche à permettre le surgissement d'idées et de paroles incidentes qui ouvrent vers l'imprévisible. Cette parole est dite dans le transfert, et c'est là son caractère le plus énigmatique. Elle ravive l'infantile, non pas comme une histoire lointaine du passé, mais comme une réalité incarnée dans le présent. Freud, en 1938, s'étonnait encore du phénomène du transfert, et il disait dans la brèche de psychanalyse, « C'est une chose bien étrange que l'analysé réincarne dans l'analyse. » Un personnage du passé, dans l'analyste, un personnage du passé. Donc ce transfert, il suscite la parole ou il lui fait obstacle, mais il reste souvent muet à l'intérieur de la parole elle-même. Et il fait parler de lui, surtout quand il se tait. Le transfert habite l'enfance, le sans-parole, ce qui reste d'infantile, ce qui veut mais ne peut pas avoir accès au langage. L'enfance, c'est un terme de Ferenczi, repris par Lacan, qui désigne l'enfant qui n'a pas encore de langage, avec des mots qui ne partagent pas le code linguistique des adultes. Avec « in », le préfixe marquant la négation ou le contraire, et « fence », qui vient du latin « fari », « parler ». Voilà, l'enfance est proche, on peut se poser la question, est-il proche du poète lorsqu'il emploie des signes non-verbaux pour communiquer? Quand le poète partage ses émotions, bien sûr avec des mots, mais avec l'union intense des sons, des rythmes et des harmonies.
Oui.
Et pourquoi ne pas en dire autant de toutes les créations artistiques comme la peinture, la musique? Un autre préfixe a retenu votre attention, c'est le préfixe « ur » de la langue allemande, « ur » qui marque le primitif et l'originaire. Le primitif, c'est une figure freudienne du psychisme, avec le pulsionnel, sa poussée et son refoulement, mais aussi une temporalité spécifique qui est propre à l'esprit humain, où l'actuel et l'inactuel coexistent. Alors vous dites, le plus éloigné dans le passé, le plus passé du passé, coexiste avec le plus proche dans le présent, le plus présent du présent. Le primitif est ainsi la réserve de la vie psychique, mais aussi la source d'une destructivité redoutable. Ainsi, l'homme civilisé porte en lui un monde sauvage. Bon, l'enfance, comme vous le disiez, l'enfance est celui qui s'imprègne des langues sans les comprendre et qui est muet. L'enfance, l'enfant dans l'homme, l'enfant entêté est toujours présent chez l'adulte, mais en général on ne l'entend pas. Il est encore muet. Et vous dites qu'il est toujours présent dans les séances. Il apparaît soudain dans un lapsus, dans le balbutiement d'un mot ou d'un prénom ou d'une image. Chacun de ces fragments, qui semble garder intact, irréductible au monde et à la langue des adultes, le tremblement de la survivance de l'enfance. À ce moment-là, le surgissement de l'enfant, de l'infance, il y a comme un renversement. Le surgissement de l'infance rend souvent l'analyste muet. Les mots nous abandonnent. Il est difficile de nommer ce que nous éprouvons. Peut-être comme dans les expériences profondes de la vie, les moments les plus marquants de la cure sont-ils muets. L'analyste, dans ces moments féconds, devient lui-même l'infance qui écoute le langage de l'analysant adulte. Il devient alors le muet dans la langue de l'autre, l'analysant. L'analyste régresse à la mesure de la régression de l'analysant et on retrouve le travail de Pierre Fédida. Bon, vous dites que c'est dans la résonance, souvent silencieuse, qui succède à la parole interprétative, que l'anamnèse, la refoulée des représentations refoulées, la reviviscence ou la récidive des anciennes passions devient possible. Et à ce moment-là, l'adulte semble alors oublier les mots appris, vides, rigides, les mots désensualisés par l'usure du langage et la répression de la morale. L'écoute analytique est nécessairement silencieuse, établit une étrange résonance avec le silence de l'infance. Cette écoute analytique est un appel adressé aux représentations refoulées, mais aussi à la mémoire sensorielle, aux traces de l'infantile. L'analyste donne la parole à l'infance muet et à l'enfant qui n'a pu parler. En fait, c'est tout l'inverse de ce dialogue dans le souvenir de cette femme. En fait, ce n'est pas vraiment un souvenir, c'est presque un conte. Alors qu'elle n'arrivait pas à la hauteur de la table et qu'elle regardait avec émerveillement les adultes y écrire, elle se met à tracer des signes rythmiques sur une feuille de papier qu'elle tend à sa grand-mère. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Un bref coup d'œil, ça ne veut rien dire. Pas de poésie ici. Le sourd répond au muet.
Ça, c'est une petite vignette peut-être clinique que oui. D'un souvenir de. Oui. Bon, je vous remercie beaucoup de cette intervention, comme de toutes les autres, hein, mais c'est vraiment. Il y a beaucoup de fils qui s'entrecroisent, et donc je vais tirer quelques-uns parce que je crois que je n'avais pas très bien pu répondre avant. Par exemple, Jean-Claude Bourdet faisait aussi allusion à la poésie de Hellman, à laquelle je dédie un chapitre. Parce que là aussi, il y a, de notre point de vue, le problème du mutisme et de la perte de la parole quand celle-ci est provoquée par la douleur psychique, n'est-ce pas ? Dans un des traits caractéristiques de la mélancolie, c'est justement la perte du désir de parler, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a la douleur rend muet. La douleur frappe la langue et la laisse comme inerte. Et donc, mon intérêt était de m'approcher des expériences poétiques qui surgissait justement d'une douleur profonde, d'une douleur mélancolique. Et c'est comme ça que je me suis approché de Juan Gelman, qui est un poète argentin que je connaissais, parce que c'est un auteur assez connu, surtout dans l'Amérique latine, à l'époque de ma jeunesse, mais que j'ai vraiment découvert il y a, je ne sais pas, 6-7 ans, parce qu'il y a aussi une sorte de virement de son langage poétique, justement autour de ses expériences de la douleur psychique et de la mélancolie, parce que lui-même, il a souffert, disons, la disparition de ses parents, de ses enfants, pendant donc la dictature militaire en Argentine. Et il a été donc frappé par cette douleur aussi de la perte de ses camarades, de ses compagnons, de combats politiques. Et après, il a essayé de travailler cette douleur, de s'en sortir de cette douleur, de pouvoir revenir en vie peut-être à travers la poésie, à travers les poèmes. Et c'est justement la découverte que j'ai eue de sa poésie récente, disons, à partir des années 1980-1990. C'est un ami qui m'avait fait parvenir un CD où il y avait des poèmes de Juan Gelman, dits par lui-même. Et c'était au moment où, justement, à la ville de Montevideo, on avait découvert sa petite fille, qui était donc qui avait disparu dans une situation tragique, parce que on avait fait prisonnière sa mère quand elle était enceinte de cette fille. On avait laissé donc que la mère accouche. Après, on avait tué la mère, on l'a assassinée, et on avait donné la petite fille à une famille proche, en plus des bourreaux, des militaires. Et donc, après des années et des années de recherche, Gelman, aidé par d'autres, bien sûr, d'autres institutions, arrive à découvrir, le disparu apparaît. C'est-à-dire, au lieu de la disparition, c'était une sorte d'apparition de cette petite fille, maintenant déjà une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui récupérait son identité initiale, qu'on avait tout à fait cachée. Dans ce moment terrible, déchirant pour cette jeune femme, évidemment, qui découvre que tout ce qui l'entourait n'était pas vrai, enfin, ou c'était vrai d'une certaine façon, mais que c'était construit sur un mensonge horrible qui était... C'est un crime atroce, celui de voler les origines d'un enfant, d'effacer les traces de sa véritable famille, de ses parents. C'est un crime abominable. Et donc, à partir de là, sur cet effacement terrible, s'est construit quand même une vie psychique, une vie de famille avec cette jeune femme. Mais voilà qu'à un certain moment, on découvre elle-même par des préoccupations. Enfin, ça serait très long de raconter tout ça. Mais donc, j'écoute un CD qui me vient donc au moment où Juan Gelman est à Montevideo dans un acte public, dans une salle de théâtre. Il lit ses poèmes, et ce sont des poèmes donc consacrés à la disparition, aux disparus, à ceux qui reviennent, etc. Et j'ai eu un véritable choc émotionnel, une véritable expérience poétique, on peut dire aussi, de la parole de cet homme et de son chant poétique, n'est-ce pas ? Et donc, c'est une poésie qui montre véritablement comment, à partir de cette douleur, de cette aphasie traumatique, comment la parole peut revenir petit à petit, comment elle peut être réhabitée par la vie, disons, par la vie psychique, et en même temps, comment le poète... Et alors, justement, une des caractéristiques de la poésie de Gelman, c'est qu'une de ses sources, c'était, on le ressent très bien quand on connaît l'espagnol, la langue, et surtout quand on connaît aussi l'espagnol de cette région de l'Amérique latine, c'est-à-dire du Rio de la Plata, Buenos Aires, Montevideo, qui est un peu la zone géographique du tango, n'est-ce pas ? Alors, il reprend dans sa poésie des expressions, des tournures, qui sont véritablement cette langue native, cette langue natale qu'il écoutait quand il était enfant dans les rues de Buenos Aires, n'est-ce pas ? Et en même temps, par une sorte d'extraordinaire métamorphose ou d'extraordinaire recherche poétique, il connaît l'exil comme expérience personnelle et il commence à aller vers à se rencontrer, à se retrouver lui-même dans les poèmes de la Renaissance espagnole, dans le poème des grands mystiques espagnols, Santa Teresa ou Saint Juan de la Cruz, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse. Et donc, il rapproche d'une façon vertigineuse, n'est-ce pas, une expérience de la parole la plus proche du parler quotidien d'une ville comme Buenos Aires, et de cette expérience mystique qui est une des plus hautes de la poésie castillane de tous les temps, Saint Juan de la Cruz et Santa Teresa, n'est-ce pas. Alors, il y a des poèmes extraordinaires, dont je cite quelques-uns, et surtout lui-même, de famille d'origine juive, il avait été, sa famille de l'Ukraine arrive à Buenos Aires dans les années, je ne sais pas, 1910, 1920, quelque chose comme ça. Ils avaient souffert les pogroms qui étaient très courantes dans ces moments de l'histoire en Russie et dans les nuits. Et donc, il retrouve quelque chose d'une expérience de l'exil, de la poésie, de l'exil, de la diaspora des Juifs expulsés de l'Espagne. Et il fait donc, évidemment, il vient d'une autre tendance, disons, il vient il est un juif askenazé par famille, n'est-ce pas? Mais il se rapproche beaucoup dans son expérience poétique de la langue parlée par les juifs expulsés de l'Espagne, qui est le ladino, et qui a été préservé. C'est le castillan qu'on parlait à cette époque, et que les juifs qui s'en vont d'Espagne portent avec eux et gardent comme une sorte de trésor, n'est-ce pas, dans leur mémoire, cette langue intacte. Et lui, il écrit un livre qui s'appelle « Dibachu », qui est un mot ladino, c'est-à-dire « en dessous », n'est-ce pas. Et il écrit un livre bilingue en cette langue séfarade, de tradition séfarade, en ladino, et en même temps, les poèmes, disons, retraduits ou traduits dans la langue castillane. Alors, évidemment, là, il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une expérience muette, d'une expérience du silence qui a traversé l'histoire et qui fait parler le poème, n'est-ce pas ? Fait parler le poème de Juan Gelma. Bon. Je ne sais pas si... peut-être la salle aussi voudrait intervenir. Je ne sais pas, non ? Parce que c'est 7 heures.
Oui, peut-être.
Peut-être s'il y a des questions, ou si vous vouliez revenir sur...
Peut-être juste un petit mot sur Juan Gelman, parce que ça m'a fait beaucoup penser au texte de Mallarmé pour un tombeau d'Anatole, que Mallarmé écrit justement au moment de la mort de son fils, et qui est un texte qu'il considère à peine comme de la poésie, qu'il retient même pas pour être publié, il voulait même que ce soit détruit quand il est mort, et qui est un texte qu'on a retrouvé après coup, et qui est un texte d'une extraordinaire émotion, qui n'est pas tout à fait la même chose que ce que Mallarmé écrit d'habitude, mais qui est très très fort, et qui, comme dans le texte de Gelman, on a l'impression d'un langage qui est en train de s'inventer, où il y a des blancs, où il y a des choses inachevées, où il y a des presque... Enfin, pour Gelman, vous dites des néologismes aussi, beaucoup.
Oui.
Et c'est un peu la même chose, comme s'il s'agissait vraiment là, pour ce qui peut être le plus peut-être le plus difficile, enfin, je veux dire, la perte d'un enfant, de mettre des mots, de rendre présent aussi par le fait même d'écrire la poésie dans une expérience qui est toujours à la limite de l'indicible.
Exactement. Je vais me permettre de vous lire quelques extraits de poèmes de Heilmann, parce que c'est vrai que on sent qu'il que la langue traverse la douleur, et cette trace de cette traversée est dans la déformation des mots, et dans le remaniement des vocables, dans la construction de néologismes. C'est-à-dire que c'est une langue tourmentée, parce que c'est la douleur de la perte est vécue au niveau même de la langue, n'est-ce pas ? Et donc c'est une langue marquée par l'expérience de la douleur dans sa forme elle-même. Et c'est ça qui rend sa poésie extraordinairement... par exemple... Il s'adresse donc à l'enfant disparu. Hein. Il dit, je lis la traduction, « Tu viens et je ne te vois pas. Où es-tu caché ? Sécheresse qui ne parvient pas à me distraire de toi. Je gémis dans la nuit. Au-dedans de moi, j'ai le gémissement comme désolation, absence blessée. Sèche, seul de toi. Encore ces deux paragraphes qui sont très, très forts, très puissants. La souffrance est-elle défaite ou bataille ? Réalité qui écrase, es-tu compagne ? Toute cette perfection, de quoi te sauve-t-elle ? Ne te fais-je pas du mal, peut-être ? Te juanais-je ? Ici, il joue avec le mot parce qu'il s'appelle Juan. Te juaneo. C'est comme s'il introduisait son propre nom dans la mémoire de son fils disparu, n'est-ce pas ? Avec une connotation clairement aussi de sexuelle, n'est-ce pas ? D'une sorte d'amour fou qui le prend là pour récupérer quelque chose de la mémoire de ce fils disparu. Hein ? Te gelmanège, Heilmann, la même chose, n'est-ce pas ? Comme s'il pouvait s'introduire avec son propre nom dans la chair de son fils pour le faire venir, n'est-ce pas ? Te chevauchais-je comme fou de toi, poulain à toi qui passe, résilient la malheureuse, celle qui pleure au pied de mes mouroirs. Il invente des mots, mouroirs, bon, parce que c'est des lieux où l'on meurt, n'est-ce pas ? Bon. Alors voilà, c'est un...
Peut-être vous pourriez nous le lire en espagnol, non ?
Alors, si vous voulez.
Parce qu'il y a des gens ici qui connaissent l'espagnol, oui. Pour qui ça peut avoir une résonance intéressante.
Oui. El sufrimiento es derrota o batalla. Realidad que aplastas, sos compañera. C'est le langage de Buenos Aires, hein? Sos compañera. Eres compañera, on dirait dans le langage espagnol. Sos, c'est un modisme de Buenos Aires. Realidad que aplastas, sos compañera. Tu mucha perfección te salva de algo. ¿Acaso no te duelo, te juaneo, te gelmaneo, te cabalgo como loco de vos, potro tuyo que pasa desabuenándose la desgraciada, esa que llora al pie de mis muereras? On a dit que c'est une poésie difficile du côté de l'abscon, disons, non, du côté de ce qui est fermé, Mais je trouve que c'est surtout une on saisit immédiatement le sens, n'est-ce pas ? Il n'y a rien de crypté là-dedans. Hein ? On peut ne pas comprendre exactement tout, mais on est pénétré par la force, par l'énergie des images du poème. Hein, c'est ça, c'est la grande poésie, c'est réellement.